franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Jacques Kerouac et la Beat Generation.
Je m'en fous du monde matériel, du monde militaire, du monde du gouvernement. Je m'en fous du monde des affaires, et des affaires, comme disait Jacques Prévert. on s'en fout de tout ça. Ça va sans dire.
Revenons au temps de la présidence Eisenhower et du triomphe de la poupée Barbie. À l'époque, le jeune Bob Dylan ou la teenager Joan Baez, 16 ans, se cherchaient d'autres modèles. Et voilà qu'en 1957, Kerouac, qu'on vient d'entendre, réussit enfin à publier Sur la route et propose d'étendre des tensions sociales et des interdits sexuels, simplicité matérielle, disponibilité à l'instant. La bande que Jack formait avec quelques autres jeunes écrivains, Ginsberg, Burroughs, et autant de mauvais garçons, se voit désignée comme la Beat Generation. Ginsberg, poète, mais fine mouche, sensible aux aspirations du moment, cherche à assigner le groupe sous ce nom, et il le couvre de son mieux, un peu, nous dira notre invité, comme une mère juive. Mais il en est souvent ainsi dans l'histoire culturelle, qu'on se souvienne en France des impressionnistes, des existentialistes, etc. La désignation sous un nom commun sème le malentendu, la visibilité qu'elle provoque soudain devient rapidement une tyrannie, et les pionniers de la Beat Generation se trouvèrent ainsi contraints de faire ce qu'on attendait d'eux. Kerouac en mourut, noyé dans l'alcool et la solitude. Il n'empêche, c'est le lot du mythe de finir en caricature, c'est sa chance de pouvoir revivre chaque fois qu'un nouveau lecteur s'en approche ou un nouveau spectateur. On sait qu'à Cannes vient d'être projeté le film adapté de Sur la route. Jean-François Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez au PUF un livre Kerouac et la Beat Generation. Chez Zoé, en Suisse, on trouve l'année où vous avez appris l'anglais. L'année où vous avez appris l'anglais en Amérique, vous avez commencé à être sur la route.
On le trouve aussi en France, bien entendu, hein, c'est en poche. L'année où j'ai appris l'anglais, en effet, c'était en 68.
Il faut dire que notre invité, Jean-François Duval, est suisse.
De Genève. Ah, oui. L'année où j'ai appris l'anglais, donc, c'est un livre qui est paru chez Ramsay d'abord, qui vient d'être réédité en poche par Zoé, et qui se déroule dans l'Angleterre des Swinging Sixties, qui met en scène un peu comme Kerouac, une bande de jeunes qui se cherchent dans le dédale de la petite ville, en l'occurrence de Cambridge, dans une... avec un rythme dans l'écriture sous-tendu par la musique des Stones et des Beatles.
Alors un peu plus tard, vous partez sur les routes américaines, cette fois au volant d'une Mustang bleue, si j'ai bien compris, à la recherche de protagonistes des débuts et de l'extension de la Beat Generation. Et vous rencontrez, on va le dire parce qu'elles ont leur importance, on les sous-estime, les Beat Women.
Des Beat Women, en effet, c'était ce qu'on appelait, enfin ce que l'une d'entre elles a appelé des personnages secondaires, la petite amie de Kerouac, Joyce Johnson, qui était sa petite amie à l'époque où il est devenu célèbre, en 57. Aussi Caroline Cassady, qui fut la maîtresse de Kerouac et la femme de Neil Cassady, et Anne Wildman, qui hantait Greenwich Village à la même époque.
Alors c'était des femmes qui cherchaient peut-être un peu moins de liberté que les hommes et qui ont gardé davantage de lucidité souvent que leurs interviews dans votre livre sont particulièrement intéressantes. Alors revenons aux hommes, puisque c'est d'eux essentiellement, hélas, qu'on va parler. À la fin des années de guerre, c'est la rencontre Kerouac, Burroughs, Ginsberg, leurs noms ont été cités. Après, la bande s'élargit à des personnes qui font le lien avec les mauvais garçons. Cassady qui va être le deuxième héros de Sur la route. Ginsberg commence à avoir du succès avec un livre qui précède Sur la route, mais Kerouac reprend la main et emporte le succès donc en 1957. Ce Kerouac, on va l'entendre parler assez souvent français, parce qu'il y a le monde des amitiés choisies et il y a aussi le monde des filiations réelles.
Tout à fait. Donc, il est né dans une famille franco-canadienne qui habitait Lowell, dans le Massachusetts. Et il a parlé jusque vers 15 ans, surtout le français qu'on appelait là-bas le joual, un mot qui est une déformation du français cheval.
C'est sa première langue,
le français. Sa première langue. Il n'a pas complètement maîtrisé l'américain avant l'âge de 15 ans.
La Beat Generation était portée sur les lectures, les manifestations, parfois même, dites-vous, les exhibitions publiques. Voici une sortie de Kerouac qui raconte la scène fondatrice, qui laquelle coïncide avec la sortie de Sur la route. C'est la mise en scène devant des spectateurs qui applaudissent du mythe.
But they asked me to write an article.
On m'a demandé d'écrire un article
about the Beat Generation,
sur la Beat Generation.
It's a very funny article.
Donc c'est un article très drôle sur ma relation avec la Beat Generation. Donc comme je n'ai jamais fait de discours, j'en ai écrit un.
This article necessarily will have to be about myself.
Cet article doit porter sur moi, donc je me lance.
That nutty picture of me on the cover of On the Road results from the fact that I had just gotten down from the high mountain where I'd been 2 months
sur la route. J'avais l'habitude de me coiffer, puisque comme je traînais beaucoup sur la route, j'aimais bien que les filles me prennent pour un garçon et pas pour une bête sauvage. Pas de virgule, je vous fais remarquer. Et comme Oscar Levant, il fallait que je tienne bon. Mais mon ami poète, Gregory Corso, a ouvert sa chemise, a brandi un crucifix d'argent, qui tendait au bout d'une chaîne et qui a dit « Allez, porte ça et arrête de coiffer tes cheveux. » Donc j'ai passé plusieurs jours avec lui à San Francisco où on a traîné de bar en bar. On est allé dans les églises, on a lu de la poésie. Et puis on a rencontré ce gang de truands qui nous a dit « Pourquoi vous portez ça ?» Et mon gang de poètes et de musiciens a dit oh, « Calmez-vous, pourquoi vous revenez pas dans 1000 ans et vous nous racontez tout ce qui s'est passé ?»
Alors, écrire sans ponctuation, sans virgule, se présenter en photo avec une chemise à carreaux ouverte. Plus tard, au temps des nouveaux philosophes, BHL sera en chemise blanche ouverte. Non, je fais le rapprochement avec les nouveaux philosophes. Je pourrais le faire aussi avec les écrivains voyageurs. Il faut trouver un nom. Le nom.
Beat. Oui, tout à fait. Alors, le nom Beat, enfin, au départ, il y avait, comme il le dit, un gang de jeunes types à Times Square qui... quand on leur a demandé un petit peu comment les médias leur ont demandé comment les appeler, alors ils ont dit les Beats. Ça, c'était fin des années 40. À ne pas confondre avec la Beat Generation, qui ça est un phénomène sociologique qui a pris son essor ou qui a explosé quasiment 10 ans plus tard, en 1957, avec l'apparition de Sur la route, parce que ça cristallisait toutes les aspirations d'une époque. Il y avait les films La Fureur de Vivre, les films avec Marlon Brando, l'explosion d'une rock'n'roll, et on a regroupé tout ça sous Beat Generation. Et ensuite, enfin tout de suite après, immédiatement après, en 58, il y a eu les Beatniks, qui est un mot qu'on a forgé sur le modèle du mot Spoutnik.
Mais Beat, c'est écrasé, faible, le pauvre qui s'exprime.
C'est ça. Enfin, Kerouac disait que c'était un mot qui était d'abord employé par les Noirs américains, qui voulait dire en effet, aujourd'hui je ne vais pas très bien, je suis bien bas, Beat, je suis abattu. Mais lui, ça ne lui convenait pas tellement d'être qualifié de la sorte, ni ses amis. Donc il attend, à partir du moment où les médias leur ont appliqué cette connotation Beat, il a essayé d'infléchir le mot dans le sens béatitude, d'autant plus qu'à l'époque, il découvrait le bouddhisme. Lui qui était catholique a toujours oscillé entre ces deux quêtes religieuses et mystiques.
Beato, François d'Assise, béatifique, bouddhisme, on reviendra au bouddhisme. Les lectures de Kerouac, elles sont très abondantes, et on voit souvent citer dans votre livre des noms qui n'étonnent qu'à demi. Dostoïevski, le prince Mishkin, c'est la disponibilité. Mais Proust,
mais Kerouac était un grand lecteur à la fois de la comédie humaine de Balzac, parce qu'il voulait que son œuvre soit aussi une comédie humaine. Tous les personnages se retrouvent dans tous ses livres. Et Proust, pourquoi ? Parce que Proust cherchait à retrouver la sensation à travers la réminiscence, tandis que Kerouac, lui, cherchait à recueillir la sensation au bord de la route, au présent. Donc son œuvre est tout à fait proustienne, ne serait-ce que par justement un certain rythme dans la phrase qui n'est pas du tout celui de Proust, mais où en effet la phrase est très musicale.
Alors il faut imaginer les deux protagonistes dont on va entendre un récit de leurs aventures sur la route, Cassady et Kerouac, se réciter du Proust, parce que Cassady, le partenaire, savait aussi Proust. Mais en même temps, la légende médiatique à laquelle les pionniers de la Beat Generation participent, disent « Non, c'est une écriture spontanée, ça n'a rien à voir avec les ratures, les recompositions, les révisions à la Proust. »
on pourrait tracer des parallèles avec le surréalisme, sauf que les surréalistes cherchaient une réalité parallèle, onirique. Les beats, enfin Kerouac, dans son écriture spontanée, cherchait plutôt à rendre le présent, le rythme du présent, la vitesse du présent.
Mais on présente à Paris, en exposition, le fameux rouleau sur lequel il a dactylographié sur la route. Mais il a dactylographié auprès d'une femme éphémère pendant 3 semaines en 1951. Ce texte, il avait mis en fait des années à le travailler.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une mythologie autour de Kerouac selon laquelle il aurait tapé, c'est-à-dire qu'il l'a dactylographié à partir des carnets qu'il avait autour de lui, des ébauches de premiers jets. Et ensuite, ce jet d'ailleurs du rouleau a été retravaillé jusqu'en 1957 et sa parution. Donc en fait, on peut dire que la composition de Sur la route a duré de 1948... C'est la première mention du titre, jusqu'en 1956-57.
Enfin, ça, c'est vous qui le dites, spécialiste de la question, auteur aux presses universitaires de France. Jacques Kerouac, à l'époque, disait, lui, ce qu'il était convenu de dire.
Votre premier roman, The Town and the City, vous avez pris 3 ans pour l'écrire.
Oui.
On the Road, vous avez pris 3 semaines pour l'écrire.
Mais j'ai découvert la manière spontanée.
Oui, spontanée, la prose spontanée de Jacques Kerouac, c'est ça. C'est ça,
quand tu commences une histoire, puis tu vas dans une barre, puis tu commences une histoire avec des hommes, tu n'arrêtes pas pour effacer. Hein? Mm. Tu continues.
Chicago, la géante, rougeoya devant nos yeux. Ouais. Tiens, reluque pour voir si le vieux Dean Moriarty n'est pas dans le coin. La première chose à faire était de parquer la Cadillac dans un coin bien sombre, et de se laver, et de se fringuer pour la nuit. Et on fila droit sur North Clark Street, après avoir fait un tour au Loop, pour voir les boîtes de striptease et entendre du bop. Et quelle nuit ce fut!
Oh mon pote, savoure la rue de la vie. Les Shinto qui se trimballent à Chicago, quelle vie surnaturelle. Waouh! Et cette femme là-haut, à la fenêtre, avec ses gros nichons qui sortent de sa chemise de nuit, ses gros yeux écarquillés. Aïe ça! Il faut y aller, ne pas s'arrêter avant d'y être.
Et où ça, mon pote?
Je sais pas, mais il faut y aller.
Ça, c'est l'écriture que vous dites jazzée. Alors, il y a deux protagonistes. Kerouac et puis Neil Cassady. Alors Cassady, dont on avait imaginé dans les premières versions préparées de Sur la route, qu'il soit interprété par Marlon Brando ou Montgomery Clift, c'est un homme de l'Ouest, un conducteur de voiture qui va comme une flèche, en même temps qu'il lit Proust. Hein.
Oui, alors en 1947, le noyau beat dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire William Burroughs, Ginsberg et Kerouac et toute leur bande, étaient en effet beat, c'est-à-dire ils étaient plutôt démoralisés, abattus, etc. Et voilà tout à coup ce Neil Cassady, Dean Moriarty dans la première version du livre, qui débarque à New York, qui est un type de Denver, de l'Ouest, et il débarque avec une énergie, un charisme, un magnétisme formidable. Et en fait, c'est le type qui sait vivre ici et maintenant, dans l'instant, et qui les sort en quelque sorte de leur intellectualisme et qui leur permet de vivre vraiment l'instant présent.
Parce qu'il conduit les voitures, il en a volé pas mal. Il a été aussi un travailleur manuel. Au fond, c'est celui qui, par sa simplicité, transmute
C'est-à-dire que Cassady est un type extraordinaire dans la mesure où il revient non seulement dans les livres de plusieurs des livres de Kerouac, mais dans toute la littérature beat, parce que Kerouac n'est pas le seul écrivain de cette génération. Il revient dans des poèmes de Ginsberg, qui fut son amant d'ailleurs, parce que Neil Cassady, il n'était pas vraiment bisexuel, mais il a eu quelques expériences homosexuelles dues à son enfance malheureuse à Denver.
Oui, enfin, il portait tout le temps.
Il bandait tout le temps, il faisait...
C'est ça qui était fascinant aussi.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes à la radio française, pas à la radio suisse, Jean-François
Mais
Duval.
Vous mettez sur la bonne voie.
Bon. Il ne va pas être très content, Neil Cassady, de la manière dont cette vie qu'il partageait avec Kerouac lui est en partie volée. Mais Kerouac ne va pas non plus être très content du type de succès qu'il rencontre. C'est pas, après la une du New York Times, une critique littéraire favorable qu'il reçoit. C'est la tyrannie de la visibilité qui s'impose à lui, il le raconte.
Pendant 3 ans, j'ai eu une existence de cinglé avec, à tout bout de champ, les télégrammes, les coups de téléphone, les tapeurs, le courrier, les visites, les journalistes, les curieux. La fois où le reporter est grimpé 4 à 4 jusqu'à ma chambre, j'étais en pyjama et j'essayais d'écrire un rêve que je venais de faire. Les jeunes gens escaladent la clôture de 2 mètres que j'ai fait dresser autour de ma cour pour être tranquille. Les invités, la bouteille à la main, braillent à la fenêtre de mon bureau. « Viens prendre une cuite avec nous, tu vas t'abrutir si tu travailles tout le temps. » Les visiteurs ivres viennent dégobiller dans mon bureau, ils me volent mes livres, mes crayons même. Des gars que je connais vaguement et que je n'ai pas invités s'installent chez moi pour plusieurs jours parce que les lits sont propres et que ma mère fait de la bonne cuisine. Et moi, je suis ivre pratiquement tout le temps pour ne pas avoir l'air d'un pisse-froid, pour ne pas déparer dans le tableau. Mais j'ai fini par comprendre qu'il me fallait retrouver un refuge dans la solitude ou mourir. One, two, three. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the vomit express. I'm going down with my suitcase pain. You can take an ancient vacation. Fly over Florida's deep blue end. Rise up out of this madhouse nation. I'm going down with my oldest tender friend. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Florida Express. I'm going down with my suitcase pain.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La Beat Generation avec Jean-François Duval qui publie un livre d'enquête consacré à ce monde aux presses universitaires de France. Les années passent, stériles pour Kerouac, dont on a entendu dans la lecture par Jean-Claude Dauphin qu'il se réfugiait chez Mémère, sa mère. Mais les astres éteints brillent longtemps. Dylan, qui s'est nourri de Kerouac, collabore avec Ginsberg. On vient d'entendre une chanson de Ginsberg par Dylan. Ginsberg, c'est l'un des pionniers du mouvement. Alors, votre enquête vous amène d'abord chez les anciens. Alors, Ginsberg, l'appartement modeste à New York.
Appartement modeste dans le Lower East Side new-yorkais. D'ailleurs, Timothy Leary, dont on parlera peut-être après, m'a dit que Ginsberg voulait toujours vivre en quelque sorte dans des endroits pauvres, alors que quand même, avec ses droits littéraires, il pouvait, s'il aurait souhaité vivre de manière un peu plus bourgeoise, mais il refusait justement toute apparence bourgeoise.
Dans l'appartement, vous repérez
un petit coussin de méditation, parce que lui, au contraire de Kerouac, qui est sans arrêt allé et venu entre catholicisme et bouddhisme, comme il allait et venait d'une côte à l'autre des États-Unis, Ginsberg, lui, a poursuivi dans cette veine bouddhiste, et c'était un bouddhiste convaincu qui a fondé un institut à Denver avec Anne Waldman, qui est aussi l'une de mes interlocutrices dans le livre, et qui a fait beaucoup de... qui méditait tous les jours.
Vous diriez que la Beat Generation a fait autant pour la diffusion du bouddhisme en Occident que le Dalai Lama, et avant même le Dalai Lama? Elle a semé et le Dalai Lama a moissonné.
Mais c'est-à-dire que je crois qu'on doit au Beat énormément de choses, non seulement justement le bouddhisme, mais on doit aussi un intérêt très grand pour la nature, l'écologie finalement, au bon sens du terme, nous vient aussi un peu de là. Aussi la découverte de l'Orient, parce qu'il n'y a pas que le bouddhisme, mais tous les jeunes qui ensuite sont partis sur les routes, il y a eu le livre de Hermann Hesse, aussi Siddhartha, tous les jeunes sont partis sur les routes, ça vient aussi de là.
Attendez, vous n'êtes pas la radio suisse romande. Dans la nature, il y a des plantes, hallucinogènes. Il y a ça aussi, il y a le partage du bouddhisme, qui n'en peut mais, qui s'en trouve parfois dépecé. Puis il y a le partage de l'expérimentation, des substances.
Mais vous savez que c'est le docteur Albert Hofmann, un Suisse de Bâle, qui a inventé le LSD.
Alors, on va en parler de Timothy Leary et de ses expériences sur le LSD. Mais je voudrais que vous nous racontiez d'abord un autre personnage que vous avez rencontré. Vieilli mais tranquille, paysan dans un ranch. Mais ici, on va l'entendre à une autre époque. Il s'appelle Kizet.
Ken Kesey.
C'est l'auteur d'un livre bien connu.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, dont on fête aujourd'hui le 50e anniversaire de la parution.
Et alors, il a affrété, à la grande époque de la Beat Generation, un bus, psychédélique.
Voilà.
Au volant duquel on a
retrouvé Neil Cassady, donc qui est devenu une sorte de héros américain pour la deuxième fois. C'est quelque chose d'assez extraordinaire.
C'était un extraordinaire conducteur. Voilà. Il filait comme une flèche, malgré toutes les expériences hallucinogènes qui pouvaient avoir lieu aux étapes.
On n'était pas assez vieux pour être des beatniks et un peu trop âgés pour être hippies. Tous ceux que je connaissais avaient lu sur la route. Alors nous avons décidé de voyager à travers le pays. Mais nous étions tellement nombreux que nous avons décidé de prendre le bus.
C'était comme une troupe de monstres. Allons conduire ce bus. C'était grand, spacieux.
Seuls se sont beaucoup intéressés au parcours de ce bus et leur morceau a servi de générique à Gérard Klein quand il promenait son bus plus pédagogique que psychédélique, mais peut-être mais l'un dissimulait l'autre à travers la France. Alors, Kézev, vous le rencontrez et dans le ranch, il vous reçoit dans la cuisine, vous fumez un joint.
Au dessert, ouais. On était deux, trois personnes. Il y avait son éternel copain Ken Babs qui faisait partie de ce groupe dans le bus. Donc c'était les Joyeux Lurons, les Merry Pranksters, et qui portaient partout la bonne parole psychédélique d'une côte à l'autre, et qui ont rencontré Kerouac à New York pour justement. On a pensé à un moment donné que Ken Kesey était le successeur littéraire de Kerouac, que c'était le nouveau Kerouac. C'est le journaliste Tom Wolfe qui défend cette idée-là.
Alors, il vous parle dans sa cuisine, Ken Kesey, vieux, de Tom Wolfe qu'il n'aime qu'à moitié. Vous fumez un joint, vous êtes suisse et vous vous inquiétez de votre conduite après dans la Mustang bleue. Oui. Et alors, par la baie, dans les temps, il y a le vieux bus, noyé dans les temps.
Il y a le vieux bus dans un étang où Kesey se plaisait d'ailleurs, on revient à l'histoire de la nature, à observer un ragondin. Le bus se défraîchit, mais Kesey a refait un duplicata, une copie conforme.
Pour aller où
pour aller, il est parti donc dans les années 90, il est parti en Angleterre à la quête de Merlin avec la même équipe à peu près. Donc c'était des types comme Kerouac qui étaient en quête, vraiment, toujours en quête.
Oui, enfin Kerouac s'intéressait beaucoup au mythe celte puisqu'il voilà. Se jugeait breton. Exactement. Mais Kerouac, il n'a pas apprécié beaucoup, le bus de Kesey. Et la dernière rencontre qu'il a eue avec Cassady qui conduisait le bus a été plutôt négative.
Ça a été une rencontre qui a échoué. La rencontre entre ces deux mythes américains, Kerouac et Kesey, a été un fiasco, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin,
vous ne nous avez pas dit qu'est-ce que c'était le contenu des expérimentations psychédéliques aux étapes.
Ah, c'était le LSD.
On se montrait en public après usage du LSD.
Non, il s'agissait de convaincre. C'est-à-dire que le LSD n'a été interdit. Vous me posez une colle. Qu'en 1966, octobre 1966, à l'époque de ce bus, c'était en 64. Il était tout à fait permis à n'importe qui et toute la jeunesse était intéressée à faire cette expérience avec le LSD, là où le bus passait.
Alors le bus, il est passé à Millbrook.
Millbrook Farm, qui est une
superbe... Il ne voyait pas une ferme, ce n'est pas le ranch de Kesey, c'était une grande propriété.
Une grande propriété, pas très très loin de New York, qui appartenait à une famille Hitchcock, et où Timothy Leary a pu poursuivre ses expériences avec le LSD.
Alors on y vient, commencé à Harvard. Je l'avais promis à Timothy Leary, professeur à Harvard, et entouré à l'époque où il donne ce bref entretien, d'une cour de disciples un peu déjantés.
We teach the science and art of ecstasy.
On enseigne comment turn on, c'est-à-dire comment sortir de son esprit. Par turn on, on veut dire turn in, aller au-delà de sa routine, des différentes manières de penser, de se comporter, d'expérimenter. Nous disions souvent que nous apprenions aux gens comment utiliser leur tête. En fait, il faut sortir de son esprit. Il faut sortir des statistiques dans nos manières de penser et d'expérimenter. La plupart du temps, nous voyons le monde à travers une série de petits filtres. Nous utilisons seulement un millionième de notre potentiel cérébral. Si les gens disent que le LSD est dangereux, nous répondons que le fascisme est dangereux.
Alors, il s'agit de déplacer le monde.
D'ouvrir les
le monde n'a pas de bord.
Ouvrir les portes de la perception. Timothy Leary a été l'un des premiers avec Huxley à le dire. Tout ça a été repris par plusieurs groupes rock, Jim Morrison et les Doors, etc., Kurt Cobain. Il s'agissait, au fond, d'explorer des routes nouvelles. Et Timothy Leary, lui, dans ses dernières années de sa vie, je l'ai rencontré peu avant sa mort, 3 mois avant sa mort, défendait beaucoup l'idée de des nouveaux chemins, des nouvelles routes couvraient la cybersphère.
On va y venir, mais alors dans cette rencontre, vous n'oubliez pas que vous êtes suisse et vous lui dites quand même, maître, docteur, enfin il a connu la prison, mais il a rebondi à la fin de sa vie, il est dans une grande villa à Beverly Hills. Ces drogues psychédéliques, il y a vraiment de quoi faire la différence avec les autres drogues d'addiction? C'est une question que vous posez.
Disons que les drogues psychédéliques...
J'aime bien vous mettre dans le rôle de Timothy.
Là, vous me posez un petit peu une question. C'est quand même... Enfin, dans la conception de Timothy Leary, ça devait en effet... Enfin, tous ceux qui ont pris du LSD pourront le confirmer. C'est-à-dire que ça permet en tout cas une perception du monde différente et qui n'est pas forcément plus vraie que notre... Mais enfin, ça remet en cause notre propre perception habituelle du monde. Ça, c'est clair.
C'est une conquête de l'espace, allez-vous dire. Tous ces membres de la Beat Generation numéro 2, qui ont d'une certaine manière réussi, ils aiment bien l'Amérique, malgré les ennuis qu'elle a pu leur causer, malgré les emprisonnements qu'ils ont pu connaître pour usage de drogue. Ils la disent la terre de l'espace,
tout à fait.
La terre des possibles.
Oui, oui. Kerouac, comme Ken Kesey, était extrêmement attaché aux valeurs fondamentales de l'Amérique telles que les avait forgées ou dont on avait parlé, comme on avait parlé par exemple le philosophe Emerson ou Thoreau à sa suite ou Walt Whitman, ils étaient profondément américains et c'est pourquoi par exemple Ken Kesey était absolument consterné quand Vol au-dessus d'un nid de coucou a été traduit en URSS à l'époque de la guerre froide et considéré comme un livre anti-américain. Pour lui, c'était absolument pas ça, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ouverture de l'Amérique vers tous les possibles. Je vous ai interrompu quand vous décriviez la dernière période de Timothy Leary que vous voyez 4 mois avant sa mort, pas du tout mélancolique, parce qu'il est persuadé, entouré de ses disciples, qu'il va s'envoyer en l'air dans l'espace.
Alors, c'est un personnage formidable, parce que lui, il allait mourir d'un cancer de la prostate, et il se réjouissait de ce voyage dans l'au-delà. Il n'était pas absolument sûr qu'il y ait quoi que ce soit au-delà, disons, mais en tout cas, il pensait que c'était une expérience à faire, et il s'en réjouissait. Moi, je dois dire que cette rencontre, en ce sens, m'a donné quelque courage.
Une sorte de publicité à la fin, parce qu'il ne répugnait pas les membres de la deuxième génération Beat à faire de la publicité, qui pour Gap est là pour les Spoutnik, les cellules qui peuvent envoyer vos cendres dans l'au-delà.
Il a toujours voulu aller dans l'espace, donc c'est comme si son rêve devenait réalité, pour moi et pour lui.
Ça devait se faire ainsi. Et quand ce rock est mort un jour, c'était pas croyable, j'étais sans voix.
C'est l'accomplissement d'un rêve pour mon mari, pour mon meilleur ami, mon partenaire, qui a toujours voulu aller dans l'espace, et aujourd'hui il l'a fait.
Je n'imagine pas un meilleur moyen de l'honorer. Et de célébrer sa mort. Et c'était sa vie, donc c'était parfait pour l'honorer.
Oh, je n'imagine pas un meilleur hommage. L'espace pour l'Amérique dont il a toujours rêvé.
Il a dit qu'il voulait y aller. Regarder la Terre et dire, j'ai vécu là.
Tout de même, c'est la menue monnaie, j'emploie le mot à dessein, de la première grande génération, Kerouac. Il a fini seul avec mes mères.
Oui.
Alcoolique.
Oui.
Quand il est arrivé à Paris en 65, il est allé à la BN, on lui a refusé les papiers de généalogie qu'il cherchait parce qu'il était ivre. Il est allé chez Gallimard.
Il s'est fait jeter dehors.
Personne ne savait que c'était Kerouac. Il ne voulait pas croire chez Gallimard que c'était Kerouac.
Ouais.
Et maintenant, ouais. Il publie 2 inédits.
Voilà.
Kerouac et les hippopotames bouillir vifs. Dans leur piscine,
qu'il a co-écrit avec William Burroughs.
Parce qu'il imaginait une séance de cirque qui finissait mal,
ouais.
Par un grand incendie. Merci à vous Jean-François
Merci
Duval, Kerouac et la Beat Génération aux presses universitaires de France. Et le dernier clin d'œil vient de notre réalisateur, nos auditeurs reconnaîtront Jacques Cigale, accompagné de Philippe Duclos, Maxime Anna.
Monsieur fume du haki avec les biclites.
Je m'en fous du monde.
L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Laetitia Legrand, Camille Poux, Jalaguier et Frédéric Martin. Nous allons parler de vitesse encore à France Inter dans un instant. À haute vitesse, c'est le titre de Mathieu Vidard dans La tête au carré. Il est 14h.